De nouveau, bonsoir Jean-Pierre Vincent.
Rebonsoir.
Depuis le début de la nuit, nous avons entendu le peintre Gilles Ayot, Jean-Pierre Vernant et à l'instant Jean-Luc Nancy. Nous nous retrouvons pour la suite de votre nuit rêvée sur France Culture. Au programme « Serions-nous en train de perdre la raison ?» avec Bernard Stiegler, sur quelques objets étranges de la nouvelle physique avec Carlo Rovelli et Robert Badinter parlant de son combat pour l'abolition de la peine de mort. Êtes-vous un homme de ce temps? C'était la première question posée à Jean-Pierre Vernant dans l'archive que nous avons entendue. Vernant répondait qu'il appartenait peut-être à deux époques, celle de son temps et celle des Grecs anciens. Vous êtes, Jean-Pierre Vincent, nous n'en doutons pas, un homme de votre temps, mais de quels autres temps aussi?
De tous les temps dont je suis originaire, dont nous sommes originaires. C'est-à-dire que tout est fait aujourd'hui. Consciemment et inconsciemment de la part des pouvoirs, qu'ils soient politiques, médiatiques, etc. Tout est fait pour faire oublier aux gens, et surtout aux jeunes gens, qu'ils sont des êtres historiques et qu'ils sont les fruits d'une histoire. Et ils ont, et s'ils ignorent ça, ils ne peuvent pas produire une histoire. Alors c'est évidemment ce que dit Stiegler quelque part, c'est que nous vivons une époque qui n'est pas une époque, qui ne fait pas époquet. Comme disaient les Grecs, mais ça ne fait pas époque. Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, par exemple, dans la disruption de Stiegler, c'est les paroles de ce jeune homme qui s'appelle Florian et qui dit « Mais je suis pas le seul à le penser. Nous sommes la dernière génération, ou à peu près, presque la dernière génération, qui est un sentiment sourd et profond. Si on peut penser qu'on est la dernière génération, c'est qu'on a oublié qu'il y a eu des accidents précédents dont l'humanité a triomphé. Avec la mondialisation, ça devient plus difficile. Je suis aussi un homme du temps de la mondialisation, que je le veuille ou non. Hein. Mais je ne sais plus qui disait ça récemment. Si dans les 5 ans qui viennent, il n'y a pas une insurrection mondiale à propos de l'écologie et de la sauvegarde de la planète, c'est foutu. L'humanité est foutue. Ça, je ne suis pas un homme ni pessimiste ni optimiste, etc. J'essaye d'être objectif et de réfléchir sainement aux choses. Mais je pense que c'est vrai. Je pense que ce qui nous pend au nez, c'est vraiment le pire. Alors, bien sûr, il y aura des créatures animales qui pourront s'appeler homme ou femme ou tout ça, mais qui ne seront plus l'humanité. Et c'est pour ça, par exemple, que à l'heure actuelle, je suis dans un travail de 3 ans à l'école du Théâtre National de Strasbourg sur l'Orestie d'Eschyle, qui raconte un morceau d'histoire de l'humanité où l'humanité se sort par la violence, y compris des miasmes de la vengeance toute faite, de l'animalité de la vengeance, etc.
Nous rappeler à la conscience de l'histoire, au passé qui nous constitue, que nous portons en nous, est-ce là l'un des fondements de votre travail?
En tout cas, c'est un des fondements de mon goût de la vie. Toutes les périodes dont je pense être issu et dont je pense que, le voulant ou ne le voulant pas, tous mes contemporains, français ou européens ou au-delà, sont redevables, ça m'intéresse. J'ai réussi parfois à l'écrire concernant l'atterrissage de cette question-là sur la politique culturelle de la France et sa dégradation. Il y a des moments de dégradation de notre politique culturelle que le monde entier nous envie, entre guillemets. Et je vais essayer de continuer. Mais ça n'est pas facile en ce moment parce que vous savez plus très bien. Si vous pensez, par exemple, écrire un article dans Le Monde, dans Libération, tout ça, vous savez plus très bien à quel cerveau vous adressez. Les gens sont quand même un peu lobotomisés par le passage de ce que Stiegler appelle le passage de la raison au calcul. Il y a plus de raisonnement, le monde est gouverné par le calcul.
Par les algorithmes.
Mais les algorithmes appartiennent à des gens. Moi, ce qui est une sorte de petite obsession personnelle depuis quelques années, je me suis intéressé dans les années 70 à cette chose qui s'appelait la commission trilatérale. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'était. C'était les plus grands chefs d'État du monde qui se réunissaient avec des experts économiques pour analyser l'état économique du monde. C'est les premiers pas de la globalisation. Et la première vérité qu'ils ont trouvée, c'était que la démocratie avait été le régime le plus favorable pour le capitalisme, mais que c'était fini. Dans les années 90, autour de Rockefeller, enfin, ça traîne dans les livres qui parlent d'économie aujourd'hui, il n'était plus question seulement de piloter les politiques pour que ils opèrent au nom du capitalisme financier. Le capitalisme financier qui, après la chute de l'Union soviétique, avait battu à plate couture le capitalisme industriel, le capitalisme financier règne sur le monde, impose ses logiques à travers ses intellectuels, à travers ses algorithmes, et maintenant risque d'ailleurs d'être victime de ses propres algorithmes. Mais la victoire du capital financier sur le capital industriel, c'est la première chose que j'ai lue dans Karl Marx. C'est un livre merveilleux qui s'appelle « Les luttes de classe en France, 1848-1850 », qui raconte que Louis-Philippe est arrivé un jour de la fin juillet 1830 à la mairie de Paris en compagnie du banquier Lafitte. Et alors, il déroule la première victoire du capital financier sur le capital industriel. C'est limpide, mais c'est... Et alors, j'ai fait à Nanterre dans les années 90, après le spectacle sur Vichy, après le spectacle sur la peste que nous avons fait au moment de la naissance du sida, avant la naissance du sida, de la pandémie. Nous avons fait un spectacle sur Marx, où il y avait trois quarts d'heure sur la plus-value, le premier livre du Capital, qui était un spectacle d'une drôlerie extraordinaire où les gens se rendaient compte que tous les jours, ils se faisaient avoir. Tous les jours. Et la victoire du financier sur l'industriel est une chose dont il va bien falloir se défaire si on veut que la planète survive. Parce qu'ils sont en train aussi de détruire la planète, évidemment, ils s'en foutent complètement. Ils sont dans leur yacht à quatre étages avec tous les ordinateurs du monde.
Jean-Pierre Vincent, nous écouterons donc Bernard Stiegler qui en 2016 était l'invité d'Étienne Klein dans une conversation scientifique et qui posait donc la question, dans la disruption, comment ne pas devenir fou ? Comment ne pas devenir fou dans le monde décrit par Bernard Stiegler donc, Jean-Pierre Vincent ?
Eh bien, j'ai été très heureux parce que c'est un livre qui est très pessimiste, hein. Très juste, hein. Il voit vraiment des choses terribles.
Un diagnostic alarmiste.
Oui, mais il promet un deuxième tome qui serait plutôt optimiste. On va voir comment ça va se passer. Mais surtout, j'ai été très heureux que de l'entendre parler de ce qu'il fait en ce moment dans le 9-3. Cette réunion de communes qui entreprend d'essayer d'élaborer des nouvelles relations, etc., etc. C'est-à-dire, il suffit pas de dire qu'on est promis à la catastrophe.
Il faut faire.
Il faut faire.
Il faut être courageux,
alors,
dit-il.
Si on ne peut pas faire une insurrection mondiale, c'est quand même assez mal commode en ce moment, il faut faire autour de soi. C'est-à-dire, moi aussi, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, moi ? J'étends mes bras autour de moi le plus loin que je peux. Bien sûr, en faisant les spectacles que je fais, mais aussi en allant parler du théâtre et de la vie et de l'économie et de la politique et tout ça ailleurs, et d'aller voir les gosses dans les écoles, etc. Je le fais, ça aussi. Mais c'est devenu, d'autre part, un truc très gênant, c'est que les politiques en France, la haute administration et les élus, disons, de toute hauteur, ne s'intéressant plus du tout à l'art, n'ayant plus de culture artistique personnelle, la seule chose qui les intéresse, c'est que nous allions calmer les gosses dans les cités, dans les écoles. Et ça devient abusif parce qu'on le fait. Mais le théâtre public ne peut pas faire plus qu'il ne fait à l'heure actuelle. Alors, les nouveaux arrivants avec Macron nous disent « Mais il faut y aller, il faut y aller. » Mais ils savent pas ce qu'on fait. Ils savent pas ce que font les théâtres, les centres dramatiques nationaux, les scènes nationales, etc.
Mais que peut le théâtre, puisque, selon vous, vous ne croyez pas que le théâtre puisse agir sur la collectivité?
Ah, agir directement, non. C'est clair, il peut exister. Il y a eu, il y a quelques années, une quinzaine d'années, à Bobigny, où il y a la fameuse MC93, la Maison de la Culture, très brillante. Il y a eu un sondage dans la population sur les institutions municipales les plus importantes pour les habitants. Il y avait à l'époque 5% d'habitants de Bobigny qui venaient à la MC 93. Mais il y avait 80% qui disaient que c'était très important pour eux qu'il y ait la MC 93. Alors, évidemment, il faut s'attacher à réduire la marge. Je pense que c'est tout le travail que Hortense Archambault fait depuis 2 ans qu'elle a été nommée et que, par bonheur, d'une certaine façon, le théâtre est en travaux. Donc, ils se sont multipliés ici et là et tout ça. Et je pense qu'évidemment, ça va continuer.
Mais le théâtre est-il l'un des derniers, voire le dernier refuge où l'on peut proposer à une assemblée, aux individus qui la composent, une réflexion sur eux-mêmes et sur leur histoire?
Ça, je pense profondément. Je le pense profondément. À condition aussi que cette réflexion soit un plaisir. Ou comme disait Brecht, le théâtre est un divertissement. C'est la seule façon qu'on puisse lui en donner. Mais il y a des divertissements simples et des divertissements complexes. Et je crois que c'est un des derniers lieux de la pensée, même encore plus que l'université, à mon avis. Parce que les universitaires sont vraiment, je connais des êtres très brillants dans leur domaine, mais en tant que corps, je les trouve pas terribles. Mais c'est pareil les médecins et c'est pareil peut-être même les gens de théâtre aujourd'hui. On a été très solidaires pendant un certain nombre d'années, pour le moment c'est un peu la pagaille. Bon.
Mais l'art peut-il être pédagogique, Jean-Pierre Vincent?
Alors, il peut être pédagogique en tant qu'art, et pas en tant qu'art pédagogique. Enfin, ça, c'est une citation que je sors à tout bout de champ, que j'ai trouvée dans Gramsci, et lui-même l'avait trouvée dans un philosophe idéaliste de la fin du 19e siècle qui s'appelait Benedetto Croce. L'art est pédagogique en tant qu'art, car en tant qu'art pédagogique, il n'est rien, et le rien ne peut rien enseigner. C'est une chose, par exemple, c'est ce que je dis beaucoup dans des réunions en ce moment, les conseils d'administration, Festival d'Avignon, tout ça, c'est que il semblerait que l'idéal pour des politiques aujourd'hui, ce serait que l'art ne soit que pédagogique, c'est-à-dire gnangnan, c'est-à-dire commun, c'est-à-dire anesthésié, à partir de notre art que nous répandons dans la société. Alors, nous répandons notre art quand on a une salle, quand on a des moyens pour faire un spectacle, qui est une vision de l'humanité qui peut surprendre et décaler des gens qui sont aux affaires, comme on dit, et occupés à gérer. Alors, ils gèrent, et ils gèrent aussi les esprits au minimum. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a une grosse crise dans l'enseignement.
Dont parle d'ailleurs votre ami Jean-Luc Nancy, et il dit que ça ne date pas d'hier, que déjà à la fin des années 80, les étudiants lui reprochaient de faire cours sur des sujets trop compliqués. Mais pour autant, n'est-ce pas à l'école que l'avenir du monde se joue, et aussi l'avenir du théâtre, enfin du théâtre tel que vous le concevez et le pratiquez en tout cas, Jean-Pierre Vincent?
Je crois que ça vient beaucoup pour les étudiants de comment on les amène à l'université. Moi je sais que quand j'ai passé mon bac, bon... Alors, j'étais toujours très ludique, hein, comme garçon. Je faisais du théâtre, je jouais du saxophone, je jouais au rugby, bon. J'avais pas des notes formidables. En plus, j'étais à Louis-le-Grand. Aujourd'hui, par exemple, je ne rentrerai pas au lycée Louis-le-Grand. C'était le lycée de mon quartier. Alors, je suis rentré à Louis-le-Grand. Mais aujourd'hui, je n'y rentrerai pas. J'avais pas le dossier depuis la maternelle propice à rentrer à Louis-le-Grand. Les gens en terminale ne sont pas bien préparés à l'autonomie qu'il faut quand on passe à l'université ou en grande école. Alors en grande école, vous êtes entretenu, vous êtes tenu. Moi, j'ai eu mon bac de justesse grâce à l'option gym, à l'option dessin et à l'option latin, parce que j'adorais le latin. Mais c'était tout juste. Normalement, je ne devais pas entrer en hypocagne à Louis-le-Grand. Et j'ai demandé à entrer en hypocagne à Louis-le-Grand parce que je savais que si dans l'état où j'étais, je partais à l'université, je ne travaillerais pas. Et en hypocagne, on m'a appris à travailler, à chercher de moi-même, en bibliothèque, ici et là. Alors, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Wikipédia, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, ils ont tout ça. Mais ils ne sont pas autonomes pour autant. Alors, tout d'un coup, le niveau d'exigence du prof dans la hauteur de pensée peut baisser. Il se met, évidemment, il attend les retardataires un peu. Et Jean-Luc Nancy fait pas ça, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Et moi, je suis aussi, par exemple, avec les étudiants en théâtre, très exigeant. Je me mets en colère des fois, parce qu'ils ne savent rien de l'histoire de cet art. Ils veulent faire du théâtre. Pourquoi ? Des fois, je me dis, ils sont tous promis au chômage, c'est ce qu'on leur dit. Mais le chômage au théâtre, c'est plus fun que le chômage dans un métier manuel, ou dans employé de banque, ou je sais pas quoi, c'est plus fun. Alors, la motivation pour faire du théâtre n'est pas assez la motivation vers un art qui a 25 siècles, qui est chargé d'histoire, de combats, de heurts, d'excommunication. Donc il faut remuer les cervelles, vraiment. Peigner les cervelles, comme disait Brecht.
Même s'il ne s'agit plus de parler de l'homme avec un grand H, chez Nancy, chez Stiegler et chez Vernant, que tout à l'heure on a entendu dire « on ne chassera pas l'homme, si vous le chassez par la porte, il reviendra par la fenêtre ouais. », chez eux trois et chez vous aussi, n'y a-t-il pas cela en commun, justement, de veiller à laisser la fenêtre grande ouverte pour le laisser revenir ?
C'est une chose à laquelle je pense presque tout le temps en répétition. Quand je suis en répétition, je cherche à la fois la plus grande précision, la plus grande honnêteté intellectuelle par rapport à l'œuvre et la plus grande performance qu'on peut accomplir, la réjouissance qu'on peut accomplir. Par exemple, le dernier spectacle, Iphigénie en Tauride, la scène entre Oreste et Iphigénie, entre Vincent Dicèze et Cécile Garcia-Fogel, il y avait des animaux extraordinaires sur la scène, dans un texte extraordinaire, c'était pas banal, les gens étaient stupéfaits, saisis. Hein. Et en même temps, je pense qu'en rentrant chez eux, ça produisait une réflexion sur d'autres aspects de l'humanité, d'autres aventures de l'humanité. Mes aventures de l'humanité.
Après Bernard Stiegler, celui que nous entendrons ouvre, lui, la fenêtre sur l'univers infini, les galaxies lointaines, les trous noirs et les grains d'espace. Votre nuit rêvée se poursuivra avec Carlo Rovelli, invité de Stéphane Delis-Georges dans Continent Science en 2013. Qui est Carlo Rovelli et pourquoi l'avoir mis au programme de votre nuit ?
Ah, c'est la révélation intellectuelle de mes dernières années. Vous pouvez imaginer, parce que moi j'ai été théâtre, latin, grec, philo et tout ça, maths, physique, c'était pas du tout mon truc, et j'entendais vaguement de temps en temps parler de mécanique quantique ou de physique quantique, et je ne savais absolument pas quoi mettre sous ces vocables. Et un jour, dans le monde des livres, je vois une phrase. C'était pas sur son dernier livre. C'était par-delà le visible. Un commentaire en disant que c'était le meilleur vulgarisateur de physique quantique aujourd'hui. Alors après, j'ai découvert qu'il y avait Étienne Klein aussi. Mais j'aime bien cet Italien qui vit à La Ciotat et qui enseigne à Marseille. Je me suis acheté immédiatement par-delà le visible en disant « Ne meurs pas idiot, essaye de comprendre quelque chose sur la physique quantique ». Or, ce livre est merveilleux parce qu'il raconte toute l'histoire de la physique depuis la découverte par Démocrite et ses copains que nous étions tous faits d'atomes et que tout était fait d'atomes. Ils ont découvert ça en réfléchissant sur l'usure des roues de charrette. Les charrettes étaient en bois à ce moment-là. Et alors, les roues s'usaient, mais on voyait aucune perte. Donc, c'était qu'il y avait des substances extrêmement petites et invisibles qui constituaient le bois de ces charrettes. De même, le linge étendu mouillé qui séchait, et même la flaque d'eau qui était dessous séchait, sans apparition de matière. Bon. Ils ont découvert ça. Alors, ça commence là, le livre de Rovelli. Et ça passe par toute l'histoire de la physique, et ça passe aussi par Copernic, Galilée, évidemment Einstein, Faraday, Maxwell, et ça arrive au XXe siècle de la physique quantique. Alors j'ai tout compris de la physique quantique, je l'ai retenu pendant 6 mois, je serais incapable de vous le dire maintenant, il faut que je relise le livre, mais c'est aussi... ce qui m'a passionné, c'est le livre précédent de Rovelli, qui s'appelle Anaximandre de Milet, celui qui a découvert que la Terre n'était pas posée sur quelque chose, mais qu'elle était dans le vide et dans l'air. Il pensait pas qu'elle était ronde, hein, mais il pensait que c'était quand même une grosse pièce de monnaie, un peu comme ça. Anaximandre et les autres philosophes de cette époque, du VIe siècle avant, c'est des révoltés contre une pensée ancrée, la pensée du monde des dieux. Anaximandre, c'est lui qui a dit, mais c'est pas Zeus qui fait pleuvoir, c'est l'évaporation de la mer. Et puis voilà, ils ont trouvé ces choses-là, mais dans une pensée qui se révoltait contre la pensée toute faite et facile de la croyance. On revient d'ailleurs là à Sganarelle, parce que le Don Juan de Molière est une pièce extraordinaire sur la crédulité. Les gens qui croient qu'on les aime, les gens qui croient que Dieu fait ceci et cela, les gens qui croient que leur fils les aime, le père de Don Juan et tout ça. Tout, c'est un canardage complet de la crédulité. Et c'est pour ça que c'était une pièce très dangereuse pour Molière. Alors voilà, Rovelli, il me raconte tout ça. Je le trouve meilleur à l'écrit qu'à l'oral, mais parce qu'il écrit en italien, c'est plus facile pour lui, et il est traduit, c'est très bien, c'est formidable. Moi, je baigne là-dedans depuis 4 ans, dans un ravissement intellectuel formidable. Ça ne me sert pas directement dans mon travail, encore que. Peut-être que en 2019, je vais peut-être faire un spectacle sur les textes de Rovelli pour raconter aux gens que, là aussi, qu'ils ne sont pas nés de la dernière averse, que tout ça remonte à très loin, que les luttes pour l'esprit et la santé de l'humanité remontent à très loin. Il parle, par exemple, dans le livre sur Anaximandre, de ces écoles dans le centre des États-Unis où on apprend encore que l'humanité a été créée il y a 6000 ans, telle qu'elle est aujourd'hui, y compris les fossiles. C'est une sorte de scandale de l'imbécilité mondiale. Enfin, c'est un truc... il m'aide à penser tout ça. Et j'aimerais bien rendre ça public par la parole. Qui est 2 ou 3 acteurs en blouse blanche qui, avec des objets comme une brosse à dents, un aspirateur, un vélo, racontent l'histoire de la découverte par l'humanité de ce qu'elle est réellement et de l'endroit où elle est et de jusqu'où ça va, jusqu'au fond de l'univers, jusqu'à l'incompréhensible quantique. Voilà.
De la pensée, des théories de Carlo Rovelli, beaucoup disent qu'elle contribue aussi à réenchanter un certain rapport au monde.
Oui.
C'est donc quelqu'un de très précieux.
Oui, oui, absolument. C'est une nouvelle manière de conte de fées. C'est des contes de fées dont on ne connaît pas la fin. Parce que lui, il est dans la théorie des boucles, son copain est dans la théorie des cordes. Et en fait, l'univers, finalement, traversé par les particules qui vont plus vite que la lumière, qui traversent tout, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose ou est-ce que c'est rien? Bon, ça, c'est un conte de fées.
Le programme d'archives de cette nuit se terminera donc avec Robert Badinter. C'était en 2002 au micro de Joël Calmette dans Mémorable. Dans la sixième de cette série de 15 émissions, il racontait un épisode déterminant de son combat pour l'abolition, l'exécution de Roger Bontemps, dont il était l'avocat, guillotiné avec Claude Buffet à la prison de la Santé le 28 novembre 1972. Nous sommes là face à une réalité de la mise à mort d'un condamné et son récit est terrible. Jean-Pierre Vincent.
Très émouvant. C'est magnifique comment il raconte ça avec une précision, un calme et une émotion qui ne deviennent jamais de la sensiblerie ou du sentimentalisme. En fait, moi, ce qui m'a toujours attiré ou frappé chez lui... C'est un peu comme Rovelli, c'est un peu comme Stigler, c'est un peu comme Ayot et Nancy. C'est des gens qui s'arrachent à un moment donné à la pensée dominante. La peine de mort, c'est un truc qui a été créé il y a 6000 ans et puis on n'en parle plus, on n'y touche plus, c'est comme une religion. Et tout d'un coup, ce type, par un processus particulier d'arrachement à la Vulgate, à une sorte de doxa bizarre, provoque une décision politique par émotion contre la majorité de la population. Et tout d'un coup, la chose devient évidente, c'est-à-dire plus personne ne prétend, même le Front National, prétend rétablir la peine de mort. C'est une chose impossible, impensable. Or, c'était pensable par 70% des Français à cette époque-là. Même chose pour Simone Veil. C'est des êtres qui pensent à l'envers, mais justement tout droit dans l'humanité, tout à l'endroit dans l'humanité.
Et comment peut-on expliquer que la France ait été l'un des derniers pays européens à abolir la peine de mort, le dernier même, puisque là où elle n'était pas formellement abolie encore, elle n'était plus appliquée, et depuis longtemps en général.
La France est souvent la dernière pour pas mal de choses, hein. Parce qu'elle est, la France est très attachée à une sorte de passé mythique, mythologique, à une sorte d'identité culturelle inconsciente. Je parlais tout à l'heure de Jules César et des Gaulois. Il y a quelque chose qui, à travers la vie de la campagne française, et puis alors ça peut passer à la fois par les guerres de religion, les cahiers de doléances, la Normandie de Gustave Flaubert, comme une sorte d'attachement à une chose qui est spécifiquement française, dirait-on, qui a aussi quelque chose à voir avec la nourriture, avec le vin, avec la boisson, qui est une sorte d'entité, identitaire. Et on met du temps. On met du temps à évoluer tout en gardant cet humus-là. Parce que, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'en fais partie de cet humus.
Mais la machine elle-même, la guillotine, la veuve, cette machine démocratique du peuple qui tranche, le symbole qu'elle est dans notre histoire, peut-il expliquer cette difficulté à la mettre au rencard, cette guillotine?
Ben, probablement que la guillotine, elle est née aussi du supplice de Damien avant, et d'un certain nombre de tortures de l'Ancien Régime. Il y a quelque chose de barbare dans cette machine et de très scientifique, bizarrement, hein, de très sanitaire, dirais-nous. C'est très clair, très simple. C'est rare que ça coupe pas tout. C'est très curieux. Moi, j'ai jamais réfléchi à ça, à l'irruption de la guillotine, tout ça. Mais en fait, j'ai eu plusieurs fois le récit de la torture de Damien 40 ans avant. C'était horrible. C'est même la torture des révoltés était épouvantable. Alors, quand les révoltés se sont révoltés, il s'est passé ça. Mais il s'est passé aussi la transformation du gentil Robespierre en Robespierre le terroriste. Bon, donc ça aussi, c'est des choses bipolaires qu'il y a dans la société française. C'est que on passe d'un extrême à l'autre. Il y a aussi quelque chose de terrible dans la société française et dans la société rurale française, c'est la vengeance. c'est l'affaire Grégory, c'est ça existe ça aussi. On peut pas parler de tout au théâtre, mais bon.
Badinter dit qu'au moment de l'exécution de la sentence dans la cour de la santé, hormis Bontemps et le prêtre qui l'accompagnait, tous ceux qui étaient là avaient des gueules d'assassins. Tous, y compris lui-même et maître le maire, grand abolitionniste lui aussi, l'autre avocat de Bontemps. C'est donc de la fonction dont il parle, pas des personnes. Peut-on vraiment être d'accord avec lui pour le prêtre? Ne peut-on pas considérer que cette fonction était, au moins au même titre que les autres convoqués à ce moment, nécessaire à cette mise à mort?
Je sais pas. Non, j'ai rien à dire là-dessus.
Pour rendre cette mort plus acceptable.
Le rôle du prêtre dans le récit de Badinter est formidable. Il rend plusieurs fois hommage à la religion catholique sur l'amour, sur des choses comme ça.
L'amour
ce
chrétien.
Qui, moi, me fait bien douter. J'ai été à l'âge de 6 ans au catéchisme, à Notre-Dame de Paris. Au bout de quelques mois, je me suis dit que l'histoire de Jésus, c'était super sympa, mais que toute cette histoire de Dieu et tout ça, c'était pas vrai, que c'était un truc pour amuser les gens. Et j'ai passé ma vie où on me disait, où certaines personnes soutenaient que la religion est amour, que tout ça. Oui, la religion est amour, toujours au départ, au début. Et puis, elle passe souvent par des époques sanguinaires, par des époques épouvantables. Je ne vous fais pas la liste. Au nom de la religion. Donc, j'ai essayé d'être encore plus amoureux de l'humanité sans aucune notion de religiosité. Voilà. Je trouve qu'au bout d'un moment, la religiosité se trahit ou vous trahit. Il n'y a pas besoin de tout ça. Et c'est aussi, évidemment, ce qui m'intéresse chez les messieurs dont je vous fais entendre la voix.
Et être abolitionniste, c'est quoi? Le refus de la loi du talion ou avant tout le respect d'une loi sacrée, tu ne tueras point?
je sais pas ce qu'il pouvait avoir dans la tête à ce propos-là, Badinter, mais c'est la loi du talion, bien sûr. Et la loi du talion, eh bien, c'est l'histoire de l'Orestie d'Eschyle. C'est la façon dont on abolit la loi du talion, la très ancienne loi. Alors, le problème, c'est que la société ancienne était matriarcale. Que les Athéniens sont amenés à abolir le matriarcat aussi. C'est-à-dire que Athéna, à la fin de l'Orestie, dit « Je choisis la parole du Père ». Et on est parti pour 25 siècles de machisme. Voilà. C'est dommage, mais c'est en train de se réparer, on dirait.
Sur la peine de mort, n'est-il pas aujourd'hui essentiel de se persuader que rien n'est jamais acquis pour toujours ?
Tout nous prouve tous les jours que rien n'est acquis pour toujours, et peut-être encore plus en ce moment, où nous sommes dans la fameuse disruption. La disruption, c'est une accélération foudroyante d'une technologie qui change les pensées, les actions, les modes de vie, les moyens de vivre de l'humanité. Il y en a eu plusieurs, hein, l'arrivée de l'électricité ou même avant du cheval vapeur, où il y avait un certain nombre d'événements, l'écriture, hein, l'imprimerie, ont modifié, sont des modifications technologiques qui bouleversent tous les points d'appui de l'humanité. Pour le moment, c'est en train de se produire, et c'est en train de se produire sous l'égide du capitalisme financier mondial.
Jean-Pierre Vincent, nous nous retrouverons dans 2h30, juste avant la fin de votre nuit rêvée, après avoir écouté Bernard Stiegler dans « Serions-nous en train de perdre la raison ?», une conversation scientifique d'Étienne Klein en 2016, sur quelques objets étranges de la nouvelle physique avec Carlo Rovelli, un numéro de Continent Science de Stéphane Delisgeorges en 2013, et enfin l'exécution, sixième des 15 émissions avec Robert Badinter au micro de Joël Calmette dans « Mémorable » en 2002. Jean-Pierre Vincent, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.